just as mean and evil as I can be, as I can be.
Certains participants affichent de manière tranchée leurs convictions sur ce débat.
Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable, et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui? Par quoi?
Par qui, par quoi? Il y a déjà 10 millions, hein? Mais il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre.
Ça jase, on a fait le hella dans le village. Que vois-je? La Gaule est envahie par les sauvages. Outrage, on a fait criser tout le voisinage. En sortant les derbocas dans la salle de mariage, ils ont la rage de voir nos tronches dans les parages. On a assali la moquette, les murs et le carrelage. Semé la zizanie, foutu le feu à leur étage. Salopé leur paysage, on leur a fait un petit carnage. Sacrilège, y'a du hlel à la cantine, la charba dans la cuisine, des hijabs à la piscine et des jolis tapis de prière dans les usines. Ils ont tellement les nerfs qu'ils sont accro à la spirale. Mais là c'est trop tard, on a passé la douane, on a passé la frontière. Reprends à Doliprane, c'est la chanson française qui leur fait mal au crâne. Tu m'étonnes qu'ils supportent plus nos coins. On a saboté la langue de Molière, démasqué le racisme de Voltaire. On a planté la tente, maintenant faudra s'y faire. Les nègres vous emmerdent comme dirait Aimé Césaire.
T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine. Ils voulaient du folklore et de la danse du vent, de l'exotisme servi avec un thé à la menthe. Des petites pâtisseries, des fatmas obéissantes, bien dociles pour amasser, nettoyer, torcher leur viande. Mais que dalle, le projet a capoté, le plan a mal tourné. Laisse-moi jubiler, ils sont tout pâles. On a cassé le gouvernail, aïe aïe aïe. On leur a foutu la pagaille. Si tu croyais qu'on allait dire merci, merci la France, merci Sarkozy. Toujours poli, wallah je suis intégré. Tu peux toujours courir pour faire de moi un blé, oui oui.
T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande. T'as vu la gueule du patrimoine.
Sympa cette musique.
Merci, merci.
Le métissage, le brassage des cultures. Ces jeunes qui expriment leur colère, j'adore. Ouais.
L'Entrefemme, un rendez-vous intime où je reçois une invitée pour un face-à-face autour de son histoire, de son courage et de sa force. Des portraits de femmes, des parcours de vie inspirants, se comprendre et avancer ensemble.
Dans ce portrait de l'entre-femme, nous avons rencontré Mélanie qui a accepté de partager son expérience avec l'endométriose. Cependant, elle a souhaité ne pas aborder l'aspect maternité, un choix que nous respectons pleinement. Son témoignage se concentre sur le vécu quotidien, les douleurs et les défis liés à cette maladie et nous rappelle combien chaque personne est unique. L'endométriose peut compliquer le parcours vers la maternité, mais elle ne l'empêche pas toujours. Certaines femmes rencontrent des difficultés pour concevoir, notamment à cause des lésions ou des adhérences qui peuvent affecter les ovaires et les trompes. Les traitements peuvent inclure la chirurgie ou l'assistance médicale à la procréation, comme la stimulation ovarienne ou la fécondation in vitro. Mais il est important de souligner que chaque histoire est différente. Certaines femmes tombent enceintes naturellement, d'autres après un traitement, et certaines choisissent de ne pas avoir d'enfants. Au-delà des chiffres et des traitements, c'est aussi un aspect émotionnel majeur. Culpabilité, frustration ou pression sociale peuvent s'ajouter à la douleur physique. Évoquer cette dimension permet de mieux comprendre les multiples facettes de l'endométriose et le besoin de soutien personnalisé pour chaque maman.
L'entre-femme.
Retrouvez le podcast de l'entre-femme sur Spotify.
YouTube.
Et YouTube.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode de l'entre-femme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un combat invisible, d'une maladie encore trop méconnue et surtout d'une femme dont la force et le courage forcent l'admiration. Douleur extrême, fatigue permanente, vie quotidienne bouleversée, derrière son sourire lumineux, Mélanie mène une bataille silencieuse contre l'endométriose. Une maladie qui touche des millions de femmes, mais dont le diagnostic reste souvent tardif et dont les conséquences dépassent largement la simple douleur des règles. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son intimité, de son parcours médical, mais aussi de sa résilience. Mélanie est avec nous. Bonjour Mélanie.
Bonjour Flore.
Avant de parler de la maladie, revenons au tout début, à ce moment où rien n'est encore expliqué, mais où le corps commence déjà à envoyer des signaux. À quel âge as-tu eu tes premières règles ?
Alors, c'était à l'âge de 13 ans et 1 mois, très exactement. Je les ai eues pour le jour du 14 juillet.
On ne peut pas oublier. Est-ce que déjà il y avait des douleurs présentes dès le début ?
Alors oui, je me souviens que la veille de ce jour-là, j'ai eu des douleurs en bas du dos insupportables et que je savais pas du coup que c'était lié à ça, hein, parce que je pensais pas avoir mes règles le lendemain. Mais oui, ça a commencé déjà. Je pense que j'avais déjà un peu plus mal que les autres et un peu plus de saignement que les autres depuis le départ, mais ça restait supportable. Et puis à l'époque, c'était normal d'avoir mal quand on avait ses règles, donc pas d'alerte à ce moment-là.
Et tu peux décrire un peu les douleurs ? C'était comment ?
C'était principalement bas ventre, bas du dos. Ça restait cantonné à ça, ouais.
Comme des tiraillements un petit peu ?
Ouais, on peut dire ça, des tiraillements.
Est-ce que tu pensais que c'était normal ?
Oui, parce que complètement.
Voilà, on t'avait dit, les règles, ça fait mal.
C'est ça, ma mère avait déjà mal aussi. Pour moi, c'était normal d'avoir mal quand on avait ses règles. On prenait deux spasmons et on n'en parlait plus.
Et donc, c'était les douleurs, les symptômes prédominants, en fait ?
Avec le recul, je pense que oui, même si c'est pas à cet âge-là que ça a été le plus marquant. Ça a commencé vraiment à l'âge de 19 ans. Ouais, après avoir essayé pour la première fois une pilule. J'ai d'ailleurs de gros doutes là-dessus, si je peux en parler. J'ai pris une pilule qui s'appelait Jasminel pendant 3 semaines. Et en fait, c'est à partir de là qu'on démarrait les douleurs vraiment insupportables et qui m'ont amenée aux urgences.
Mais au début, il n'y avait pas plus de règles abondantes ou de choses comme ça, quoi. Pas de fatigue intense, pas de malaise, aucun symptôme.
Des règles plus abondantes que les autres, oui, pas abondantes au point où ça a été après, non.
D'accord. Comment ton entourage réagissait face à ces douleurs ?
Pas mal, je dirais. Ils essayaient de comprendre. Ils étaient assez compatissants. Pour le coup, j'ai eu de la chance sur ce point-là.
Mais pas d'inquiétude ? Pas le fait de se dire, oh, bah, y a quelque chose, c'est pas normal, il faut peut-être consulter Il n'y avait pas ce genre de réaction ?
Si, vers mes 19 ans, là, ça a commencé à être tellement handicapant que oui, mon entourage était inquiet. On a essayé de consulter plusieurs médecins, mais l'endométriose, on n'en parlait pas trop encore en 2012. Et puis, du coup, même face aux médecins, comment t'expliquer ? Pour eux, c'était presque normal ou psychologique, en fait, à l'époque.
Mais toi, t'avais déjà entendu parler de l'endométriose ?
J'ai commencé à faire mes recherches à partir des premières grosses douleurs insupportables, du premier kyste, à l'âge de 19 ans. Avant ça, non, pas du tout. Pas du tout.
Entre les premières douleurs et le diagnostic, il y a souvent un long chemin, un parcours parfois semé de doutes, d'errances médicales et d'incompréhension. Combien de temps s'est écoulé entre tes premiers symptômes et le diagnostic ?
Des années. des années. Et on parle d'une moyenne de 7 ans, c'est à peu près ça. À peu près ça, oui.
Ah, c'est énorme. Et on t'a prescrit quels examens ?
Alors, on m'a prescrit une échographie, sachant que, bon, à l'échographie, on ne voit pas grand-chose en ce qui concerne l'endométriose, hein, faut le rappeler. On m'avait prescrit une IRM, mais des années après. Et tout ce qu'on proposait, c'était la pilule contraceptive qui, en fait, empirait la maladie à chaque fois. Donc, on propose pas grand chose d'autre.
Donc tu passes ces examens, l'IRM, l'échographie, etc. Et il y a un moment où on te fait ce diagnostic là de l'endométriose. Donc comment on te l'annonce ?
Alors on a commencé par me dire que j'avais de l'adénomyose dans un premier temps, donc localisée surtout au niveau de l'utérus. Qu'on me dise endométriose, c'est venu après.
Tu peux nous différencier les deux ?
En fait, l'adénomyose, c'est de l'endométriose, mais localisée uniquement au niveau de l'utérus. Sauf que par la suite, il y a eu les kystes aux ovaires, etc. Donc forcément, c'est de l'endométriose puisque c'est plus étendu.
D'accord. Quand on te fait déjà ce premier diagnostic, comment tu réagis ? Qu'est-ce que tu ressens ? Tu es plutôt soulagée d'avoir un
Soulagée qu'on sache enfin donner un nom à ce que j'ai, parce que c'est très compliqué de savoir intérieurement que quelque chose ne va pas, mais qu'on te dise « Non, vous avez rien, madame. Tout roule. » Bah non, tout ne roule pas.
Bah oui, c'est pas que dans ma tête, quoi.
Bah oui.
Est-ce qu'on t'a expliqué clairement ce que c'est l'endométriose dès le début ?
Est-ce qu'on m'a expliqué ? Non, j'ai fait mes recherches.
Oui, voilà. Mais oui, malheureusement. Donc, comprendre la maladie permet aussi de mieux comprendre le quotidien des femmes qui en souffrent. Donc là, on va établir un angle un peu plus médical. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu es calée sur la question, sur le médical. Donc, est-ce que tu sais concrètement comment la maladie agit sur ton corps ?
Ça se passe principalement au moment des règles. Il me semble que ce sont des cellules de la muqueuse qui, au lieu de se désagréger comme dans des règles normales, vont migrer en fait vers l'intérieur sur plusieurs organes, ce qui crée des lésions, des kystes et des adhérences en fait.
C'est ça, donc l'endométriose est une maladie chronique. Quand une femme a une endométriose, du tissu semblable à celui qui tapisse l'utérus, donc l'endomètre, se trouve à d'autres endroits du corps, par exemple sur les ovaires, l'intestin ou le bassin. Et pendant les règles, dans l'utérus, la muqueuse se détache et saigne. Ce sont les règles normales. Mais les petits tissus d'endomètre placés ailleurs réagissent aussi aux hormones. Ils saignent eux aussi, sauf que le sang ne peut pas sortir du corps. Cela provoque inflammation, douleur très forte et parfois des lésions ou des adhérences. Pendant les règles, plusieurs zones du corps saignent à l'intérieur, ce qui explique les douleurs beaucoup plus intenses chez certaines femmes atteintes d'endométriose. Pour nous donner une idée, est-ce que la douleur est comparable à autre chose ?
En fait, c'est comparable à rien, Flore. C'est comparable à rien. C'est une douleur qui est tellement intense et qui prend tellement de parties du corps, en fait, que c'est compliqué de te dire à quoi c'est comparable. Hein. J'ai déjà entendu qu'au pic des crises, ça peut être comparable aux douleurs de l'accouchement. Je n'ai pas encore accouché, donc je ne peux pas te certifier, mais en tout cas, je pense que ça doit être proche. Parce que...
Et oui, certaines femmes comparent ça à de très fortes contractions d'accouchement ou à un couteau qui tire dans le ventre et le dos.
Oui, et je dis plus que c'est de l'ordre de la sensation d'arrachement, même de déchirement.
L'endométriose dont tu es atteinte, est-ce qu'on peut dire que c'est un cas sévère ou il y a des cas encore plus sévères ?
Je pense qu'il y a des cas encore plus sévères. La sévérité, on va plutôt la jauger en fonction des organes touchés. J'ai pas fait mon dernier IRM, hein. Peut-être que ça a évolué d'ailleurs. Mais en ce qui me concerne, ce qui est touché, c'est surtout les ovaires, l'utérus et potentiellement les intestins.
D'accord.
À confirmer.
Oui, parce qu'il peut y avoir une atteinte digestive, donc tout ce qui est douleur au ventre, diarrhée, constipation, douleur pour aller à la selle. Il y a les atteintes urinaires, douleur en urinant, envie fréquente d'uriner, parfois du sang. Il y a des douleurs chroniques hors règles, donc certaines femmes ont mal presque tous les jours. Et il y a des opérations chirurgicales, parce qu'on doit parfois opérer pour enlever des lésions ou des adhérences.
Alors, parlons de ça.
Et oui,
parlons des opérations. En gros, les opérations, ça peut fonctionner une fois qu'on a trouvé quelque chose qui bloque totalement tes règles et qui donc stoppe l'évolution. Se faire opérer alors que les pilules ne fonctionnent pas chez toi, ça peut fonctionner quelques mois et puis tu te refais opérer parce que ça évolue à nouveau. Donc, j'ai fait le choix de ne pas me faire opérer tant que mes règles ne sont pas bloquées.
Oui, alors c'est ça. Moi, j'allais te demander s'il existait des traitements qui fonctionnent pour toi.
Les antidouleurs. Tout ce qui est pilule, etc., ça ne fonctionne absolument pas. Ça amplifie les symptômes. Ça me crée des hémorragies qui, au lieu de s'arrêter en 7-8 jours, ont parfois duré 2 mois d'affilée sous pilule. C'est un calvaire et des douleurs qui sont encore plus importantes. Il me semble que j'en ai essayé une dizaine dans ma vie de pilule. J'ai tiré un trait.
Et tu sais pourquoi ça fonctionne pas comme ça sur toi? Pourquoi ça empêche pas tes règles?
Alors, je ne sais pas. Apparemment, un médecin m'avait dit aux urgences, non, mais de toute façon, avec ce que vous avez, il faut absolument pas prendre d'œstrogène. Ça réagit aux œstrogènes et ça peut empirer. J'ai demandé une pilule uniquement à base de progestérone. Le gynéco m'a dit, non, mademoiselle, on a découvert que ça donnait des méningiomes au bout de 5 ans, donc je ne préfère pas. Ah oui. En attendant, je suis sans solution.
D'accord, sans solution. Et on va parler du coup des conséquences physiques. Derrière le diagnostic, il y a surtout un corps qui souffre chaque mois. Comment se déroulent tes périodes de règles aujourd'hui?
Eh bien, c'est simple. Je suis alitée pendant 7 jours minimum. Je peux me lever uniquement en me tenant au mur pour aller jusqu'aux toilettes. Voilà, je dois caler toute ma vie par rapport à ça, j'ai un calendrier. J'ai la chance, malgré tout, d'être assez bien réglée, donc je sais quand ça va arriver. J'organise ma vie en fonction de ça, j'ai pas le choix.
Tu as du mal à te lever parce que tu es affaiblie, j'imagine que tu saignes beaucoup.
Je saigne beaucoup et les douleurs sont telles que marcher est un supplice en fait.
T'as quoi comme conséquence de saigner autant et d'avoir autant de douleurs? Déjà, le fait de saigner autant, j'imagine que tu as des carences.
Je suis anémique chronique, oui. J'ai des anémies en permanence et depuis quelque temps, les cachets de fer ne suffisaient plus, donc on est passé aux perfusions.
Perfusion de fer?
Oui, de fer, oui.
Et ça va être la seule carence que tu vas avoir?
Non, j'ai aussi des carences en B12, en B9. Il y a aussi les globules rouges qui n'arrivent plus à se former en quantité suffisante puisqu'il n'y a pas assez de fer. Les globules blancs, c'était pareil. Là, tout a remonté grâce à ma dernière perfusion, mais ça redescendra.
Également, tu as 9 de tension et tu me disais hors antenne que c'était quand ça allait bien.
Oui.
Alors en fait, quand ça va pas du tout, tu as combien de tension?
Allongé au repos, quand ça va pas du tout, c'est déjà arrivé que j'ai, ouais, même fréquemment, que j'ai 7 de tension, 7-4, sont dans ces environs-là. Donc forcément, de gros vertiges, la sensation de pas être sûr de son corps et de pouvoir tomber à n'importe quel instant.
Ça doit être un petit peu inquiétant, sentir pas sûr du coup de son corps.
Non, du tout. Du tout.
Et puis il y a cette fatigue permanente du coup.
Oui, en permanence. En permanence, je fonctionne en fait. Pour te donner un exemple, c'est comme si quand je me réveillais, j'avais que 30% de batterie. Et il faut que je... Comment dire? Je sais qu'il faut que je m'économise et je ne peux pas faire plus de tant de tâches par jour. Voilà, je m'épuise très très vite.
Donc tu as des traitements pour pallier à ton anémie, à tes carences, tout ça. Ça suffit? Ou ta tension ne remonte pas, t'es toujours en carence, toujours en anémie?
Là, j'ai passé 5 mois à ne plus être en anémie. Je commence à l'être de nouveau. Mais en fait, je suis restée tellement d'années en anémie que même ces 5 mois où ça allait un peu mieux, c'était quand même difficile. Et puis, comme je te dis, tous les mois, on repère tellement de sang qu'en fait, la sensation de faiblesse, elle s'en va jamais réellement.
Bien sûr.
Girls, who run the world? 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 then get back to business.
Spotify,
YouTube
et YouTube.
Et donc, à part la fatigue physiquement, donc il y a les vertiges, il y a d'autres sensations.
Pendant les règles ou en dehors?
Tout le temps, pendant et en dehors.
En dehors, il peut y avoir les rapports sexuels qui sont plus compliqués parce qu'il y a forcément plus de douleurs, des saignements aussi parfois pendant les rapports. J'ai aussi la période d'ovulation qui est compliquée. J'ai aussi des saignements pendant la période d'ovulation. Après, j'ai quelques, disons, un peu moins de la moitié d'un mois sans douleur.
Ah, et puis ces jours-là, tu les notes, tu sais quoi.
Je sais, et j'essaye de profiter un maximum. Sauf que je suis très fatiguée aussi pour profiter, mais j'essaye d'aller outre la fatigue, puisque sinon, on ne fait jamais rien.
Tu es complètement alitée toute la durée de tes règles ou plus?
Toute la durée de mes règles, un petit peu après mes règles, parce que là, je suis vraiment lessivée, peut-être 2 jours après mes règles. Et ensuite, je me force à me relever et à me dire, allez, tu repars.
C'est des règles qui durent longtemps?
Qui durent 7 à 8 jours.
Tu peux être alitée pendant 9-10 jours?
Oui.
Par mois?
Oui.
Comme tu disais, alitée à te tenir au mur pour aller aux toilettes.
C'est ça, les seuls moments où je suis en station, semi-debout, hein, parce que je suis pliée en deux, c'est pour aller aux toilettes.
Et j'imagine que ton corps, après, il récupère progressivement, tout doucement.
Exactement. Une fois que ça s'est passé, déjà les muscles sont affaiblis. Et puis, encore une fois, je me suis vidée de mon sang. Donc oui, je récupère très progressivement. Et une fois que je commence à avoir un semblant de récupération, les prochaines règles arrivent.
Ah oui, donc en fait, il y a peu de jours où tu te sens plus ou moins au top de ta forme, on va dire, avant que le cycle ne recommence.
C'est ça. Et le top de ma forme, ça fait des années que je ne l'ai pas vécu, pour te dire la vérité. Mais après, oui, il y a quelques jours où je me sens plus en forme, en tout cas, que les jours précédents, mais c'est très court.
Alors du coup, alimentairement, tu te complètes? Enfin, il y a des choses que tu manges plus pour pallier à ta fatigue, ou peut-être prends-tu des compléments alimentaires?
Alors, j'essaye de manger tout ce qui est à base de fer, forcément. Bien que le médecin m'ait dit que l'alimentation ne réussira jamais à combler le manque, hein, il faut quand même des compléments. Donc, j'ai pris pendant des années des cachets de fer qui sont assez difficiles à supporter pour moi, niveau intestinal d'ailleurs. Sinon, j'ai pris de l'acide folique aussi. Qu'est-ce que j'ai pris? Vitamine C pour essayer d'avoir un peu plus de peps, ce genre de choses.
Est-ce que tu manges plus de viande peut-être?
Oui, viande saignante. Très important, du sang.
La maladie ne touche pas seulement le corps, elle transforme toute une vie. Comment l'endométriose impacte-t-elle ton travail?
Alors, j'ai fait en sorte qu'elle ne l'impacte pas, puisque j'ai créé moi-même mon propre travail en fonction de l'endométriose. Aujourd'hui, je travaille depuis la maison, j'ai une boutique de bijoux en ligne et je fais principalement de l'achat-revente de bijoux, ce qui me permet en fait de faire tout depuis la maison et de faire le plus gros du travail quand je peux et que je suis pas alitée. J'ai trouvé la bonne alternative, je pense.
Oui, parce que finalement, tu peux pas avoir des horaires de travail dits classiques. Il faut, à cause de ton endométriose, l'endométriose, du fait que tu sois souvent alitée, souvent fatiguée. Oui. Il faut que ça soit vraiment des horaires adaptés, on va dire, à ton état de santé, ton état de fatigue. Et c'est vrai que le fait que toi, tu choisisses tes horaires, je pense que oui, il existe peu de travail, on va dire, conventionnel qui peut proposer ça, quoi.
Voire pas du tout. Je pense qu'un travail où t'es pas là pendant 10 jours dans le mois, c'est assez rare, voire inexistant, oui.
Tu as adapté ton activité professionnelle à ta santé, donc on parle d'horaire, mais j'imagine aussi que tout se passe en ligne, oui. Mais qu'il n'y a pas besoin de forcément de déplacement, etc.
Non, on va dire que mon mari m'aide beaucoup dans ce qui est l'envoi des colis, donc c'est assez chouette, et puis si j'ai besoin de faire un colis parce que j'ai des commandes, je vais lui demander de me ramener le matériel dans mon lit. Je vais faire le colis dans mon lit et puis il va me l'envoyer. Donc c'est vrai que j'ai une aide là-dessus, heureusement.
En fait, c'est un lit bureau.
Exactement. Mon lit est un lit bureau, c'est aussi une salle à manger, c'est tout à la fois.
Est-ce que tu es reconnue handicapée ?
Alors oui, pas encore concernant l'endométriose parce que je n'ai pas fait les démarches tout simplement, mais concernant une anxiété généralisée, oui.
D'accord, mais c'est important pour toi d'être reconnue handicapée du fait de l'endométriose ou pas ?
Oui, 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 il faut que ce soit reconnu enfin et il faut vraiment que je fasse les démarches. Je ne les fais pas par fatigue. En fait, si tu veux, j'ai fait tellement d'hôpitaux, de médecins, le parcours a été tellement long et dur psychologiquement que j'ai du mal à me dire que je vais refaire un parcours pour en plus être reconnue. Pour l'instant, je mets ça en stand-by. Je le ferai très certainement plus tard, mais je me sens pas la force là tout de suite de repasser par ça.
Est-ce que c'est difficile d'expliquer cette maladie invisible aux autres ?
Ça le devient de moins en moins. Les gens sont de plus en plus au courant, sont de plus en plus éduqués à ce sujet-là. Pour ma part, j'ai pas de tabou. Donc j'ai pas de mal à leur expliquer, ils sont assez compréhensifs aujourd'hui.
Il n'y a pas de moment où tu te sens incomprise, jugée un petit peu pas sur ta fatigue, sur le moment que tu as alité, etc.
Pas tellement, je pense que j'ai la chance d'avoir un entourage assez bienveillant et compréhensif, donc ça ne m'arrive pas vraiment, mais je ne doute pas du fait que ça doit arriver à énormément de femmes pour le coup.
L'endométriose touche aussi profondément l'intime. La maladie a-t-elle eu un impact en rapport au corps, sur ta féminité ?
Ah bah bien entendu, on connaît forcément cette histoire du endobelly, donc c'est le ventre qui se met à gonfler comme si t'étais enceinte de 6 mois alors que ton ventre était plat le matin même. C'est dû à l'inflammation, etc. Donc c'est pas forcément très esthétique, ça non plus. Faut adapter ses vêtements